lorsque, assoiffé d'amour, il est confronté à un événement où l'attente de l'amour est déçue par une trahison, un échec, une maladie, une gifle, un mensonge, une tentation. Alors, du coup, ça produit un espèce de mouvement de fourmilière très curieux, un mouvement du cœur qui d'un seul coup vibre en pétales comme ça. Il y a quatre grandes pétales, un phénomène d'endurcissement, un phénomène d'isolement, un phénomène de fragilisation et un phénomène donc de plus grande ouverture vers l'autre, hein, curieusement. Ça. Voilà, donc c'est ce qu'on avait vu l'année dernière. On avait pris ce tableau, mais je vous le montre tout simplement parce que c'est quand même à partir de là. Faut quand même pas oublier que si nous voulons voir descendre en notre âme, dans notre vie intérieure, spirituelle et humaine, rejoindre la puissance de vie spirituelle que nous voulons regarder cette année, à savoir la mémoire spirituelle, ce qu'on appelle la mémoire métaphysique ou la mémoire ontologique, puisque c'est un peu notre sujet de l'année, eh bien, il faut une porte d'entrée. Alors la porte d'entrée, c'est ou bien par notre vie intellectuelle, mais notre vie intellectuelle, elle est vécue, elle est reçue dans notre intelligence contemplative. Si vous voulez vous enraciner dans votre intelligence contemplative, il faut essayer de dépasser le point de vue de l'intelligence raisonnante, intellectuelle, cérébrale. Et bien de la même manière, si on veut atteindre en nous la racine de notre vie spirituelle du côté de la mémoire ontologique, eh bien il faut passer par justement le point de vue de l'affectivité. C'est quelque chose, c'est un petit peu le cœur. La mémoire se sert du cœur, pour ainsi dire. Les parties superficielles, si je puis dire, de la mémoire sont très très conjointes à l'affectivité. Donc c'est pour ça, comme l'année dernière, nous avons regardé l'affectivité. L'affectivité, je vous rappelle ce que c'est tout le domaine de l'amour en nous, hein. Alors il y a toute une soif d'amour et puis on n'y arrive pas nécessairement. Et non seulement on n'y arrive pas, mais on a des attentes et ces attentes sont déçues à cause de nous, quelquefois, à cause de l'autre, quelquefois, à cause des deux. Bon, et ces déceptions qui sont continuelles, c'est comme on reçoit sans arrêt, comme des coups de mitrailleuse sans arrêt. Rambo, vous savez. Non seulement c'est nous la victime. Alors, et grâce à ça, sans arrêt, un feu d'artifice qui sort de notre cœur et pff, un système donc de fragilisation, mais aussi un appel à aimer beaucoup plus que ce qui, que si nous, beaucoup plus profondément que ce que nous aurions fait si nous n'avions pas été blessés, mais en même temps, phénomène d'endurcissement, d'isolement. Ça, c'était ce qu'on a vu donc l'année dernière. On a regardé ça en détail. Bon, mais c'est donc en descendant au fond de notre cœur, si vous voulez, que vous ne voyez pas, mais je fais appel simplement à votre mémoire, justement, ce que nous avions vu l'année dernière. Ceux qui n'étaient pas là, bon, ben, ils ont des cassettes, n'est-ce pas? Que l'usine qui est là se charge de l'ordinateur qui est là, de fabrication. Être transformé en ordinateur, c'est pas merveilleux? On avait vu justement que le fait de subir un échec, que ce soit de notre faute ou pas de notre faute, dans l'ordre de l'amour, fait naître en nous un sentiment de culpabilité. Alors, s'engendre immédiatement le processus de l'endurcissement du cœur. Dès qu'il y a un échec dans notre vie, le cœur s'endurcit. Et l'endurcissement du cœur, c'est simplement l'endurcissement du cœur, c'est un phénomène de peur, de tristesse, de convoitise, de souffrance. Et on touche aux portes de l'angoisse, et du coup, comme on n'aime pas l'angoisse, il y a une dynamisation qui se fait, et on revient à la peur, à la convoitise, à la souffrance. L'angoisse, on fuit l'angoisse. L'affectivité ne supporte pas l'angoisse. Alors, c'est à cause de ça. Alors, du coup, comme on a peur de l'angoisse, on ne veut pas de l'angoisse, on ne supporte pas, on est incapable de gérer l'angoisse. Alors justement, du coup, à cause de ça, notre cœur, il y a une espèce d'endurcissement qui se fait. Donc c'est donc ce qu'on avait vu un petit peu en détail. Et c'est ce phénomène-là, cet endurcissement, est le signe qu'il y a au fond de nous un sentiment de culpabilité. Il y a la culpabilité qui, en nous, on sent fautif de ne pas être capable d'aimer. Voilà. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est souvent des fautes très anciennes, c'est quelquefois des fautes qui viennent même d'avant notre naissance, que nous avons subies, de subir une volonté, par exemple, je ne sais pas moi, c'était une dispute entre mon père et ma mère quand j'étais au sixième mois après la conception, 3 mois avant ma naissance, une simple dispute culpabilise un enfant. Bon, et fait naître en lui un phénomène curieux. Il y a toute une petite espèce d'ouverture de l'amour qui commence à disparaître, qui commence à s'enrober dans un circuit d'endurcissement. Bon, voilà. Donc on avait bien vu ça. Le sentiment de culpabilité vient de ce fait que j'ai une blessure du cœur, j'en souffre, et je prends conscience à partir de là que mon dynamisme, ma liberté dans l'ordre de l'amour est arrêtée. Mais je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et il y a le deuxième processus qu'on avait vu l'année dernière du côté de l'affectivité, c'était celui donc de l'isolement. C'est qu'à partir de l'angoisse, si je vis le sentiment de culpabilité, au bout d'un certain temps, mon endurcissement provoque vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis de ceux qui sont proches de moi un phénomène d'agressivité. Et cette agressivité, j'allais dire, au bout d'un certain temps, c'est tellement se voit. Et je vois que je suis agressif. Vous voyez? Donc dans un premier temps, il y a le sentiment de culpabilité avec l'angoisse, la souffrance, l'endurcissement. Mais d'un seul coup, il y a une agressivité qui apparaît. Je réagis avec une certaine agressivité. Et cette agressivité, à ce moment-là, elle me condamne. Enfin, je me vois agressif. C'est plus quelque chose que je subis. C'est moi qui le fais. C'est moi qui deviens. Alors, vous voyez, alors à ce moment-là, je prends conscience. Je prends conscience de mon angoisse à ce moment-là. Là, je touche l'angoisse, mais pour échapper à l'angoisse, je suis actif, je veux crever l'angoisse, et pour crever l'angoisse, spontanément, c'est psychologique un petit peu, hein, je reconnais, c'est pas spirituel du tout, hein. Mais je suis agressif, j'ai réagi primo-primi par l'agressivité. Ayant réagi primo-primi par l'agressivité, il y a une prise de conscience qui peut se faire. Vous voyez bien? Il y a une conscience de culpabilité qui apparaît. Dès que vous êtes agressif, tout de suite après, vous vous dites, mais pourquoi j'ai été comme ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait là, etc. Et donc, vous voyez, vous avez tout un petit triangle, angoisse, conscience de culpabilité, agressivité qui apparaît, qui fait que l'endurcissement du cœur continue à s'accentuer, mais également, vous êtes tenté de rentrer dans un phénomène d'isolement. Vous n'y croyez plus à l'amour, et du coup, vous vous isolez. Et le cœur, le phénomène, le cœur humain, il est comme ça. Et ce phénomène d'isolement fait que vous rentrez, et c'est là qu'interviennent tous les phénomènes de dépendance aliénante. Du coup, vous prenez un chat, vous prenez un chien. L'autre jour, je me suis arrêté sur une aire d'autoroute, j'ai vu une voiture arriver. L'autre jour, c'était en revenant ici, c'était vendredi, quoi. Je m'arrête sur une aire d'autoroute pour me reposer. Pour me dire, tiens, je vais me mettre là, j'ai envie de lire la Bible pour regarder Saint-Joseph. Et puis, j'étais tranquille là, et je vois arriver une voiture immatriculée 6665 ETS 34. Alors, je dis, tiens, oh là là, qu'est-ce que c'est bizarre ça. Alors, je vois un bonhomme avec une femme dedans. On me dit, tiens, on va essayer de regarder dans le rétroviseur un petit peu leur spiritualité. Hein? Et puis, ils sortent de la voiture. Bon, c'était un petit des gens qui devaient avoir 55 ans, par là, 50, 50, 60 ans. Ils sortaient, ils sont dans la nature. J'ai vu sortir de la voiture un premier chien, un deuxième chien, un troisième chien. Il n'y avait pas d'enfant, hein. Bon, c'était des gens qui étaient à l'âge d'avoir des enfants, je veux dire. Enfin, je sais pas, quand je dis 50 ans, à 50 ans, on a. Je sais pas. Non, c'est pas des vieux, je veux dire. Mais enfin, les enfants ont dû dire on a marre des parents, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Alors, du coup, ils ont remplacé par des chiens. C'est curieux, ça. Mais et les parents, ils se sentent abandonnés par leurs enfants. Alors, le phénomène de l'isolement fait qu'on remplace par le chien. En entrée. On remplace par le chien. Et c'est curieux, ces animaux. C'est tout à fait typique. Vous savez que depuis en France, la France est le pays du monde où il y a le plus de chiens par habitant. Et en même temps, c'est le pays du monde où les hommes et les femmes prennent le plus d'anxiolytiques en kilogrammes par habitant et par jour du monde.
Et en Chine, c'est la situation inverse.
En Chine, c'est la situation inverse. Ils mangent du riz. Ils mangent du chien. Ce phénomène du chien et du chat est un phénomène très curieux. C'est un phénomène très très curieux. Parce que ça, c'est, vous voyez, on se fixe hein, sur quelque chose qu'on finalement on maîtrise. Parce qu'un chien, on maîtrise plus facilement que son enfant. On maîtrise son chien plus facilement que son conjoint. Et on maîtrise un chien plus facilement que soi-même. Alors, son chat, c'est pareil. Hein? Tout ça, ça vient de quoi? Il faut arriver à repérer. Ça vient de ce fait qu'on a besoin, notre cœur a besoin de se reposer, de s'isoler. Mais il y a un phénomène affectif qui, à partir du moment où il y a le péché, et tous nous sommes confrontés au péché, qui fait qu'instinctivement, on se replie d'une certaine manière dans ce côté-là, vous voyez bien, c'est l'homme psychique, hein, ce côté-là, c'est l'homme spirituel. Du côté de l'affectivité, eh bien, on se replie du côté de... Bon, on ne peut plus, on s'abandonne, on se laisse aller. L'infantilisme. Et l'infantilisme nous met du coup dans une situation psychologique qui était semblable à celle à laquelle on était quand on était dans le bras de la mère, qu'on dépendait d'elle. Et du coup, on va dépendre du chien. On va dépendre du chat. Et le chien et le chat deviennent finalement notre maître du point de vue de l'affectivité, tandis que nous devenons le maître du chien du point de vue de l'extériorité.
Pas toujours, quand même.
Non, sauf vous, bien entendu. Alors, vous avez... Ah non, mais vous êtes l'exception, Mireille, c'est évident. Non, mais chez vous, ça ne fonctionne pas comme ça, Mireille.
C'est lui qui s'est imposé à moi, je ne le voulais pas.
Ah ben voilà.
Et en plus, j'étais très renfermée, très repliée sur moi-même avant d'avoir ce chien.
Oui.
Et ce chien m'a obligée à sortir.
Oui.
Et à m'extérioriser.
Et voilà.
Et par le fait même,
c'est ça, c'est
à prendre contact avec d'autres personnes.
Eh bien, vous me dites exactement ce que je suis en train d'expliquer.
Non,
c'est le contraire.
Mais c'est ce que je vous dis. C'est qu'on est malade, du coup, on va prendre un chien.
J'ai pas pris, c'est lui qui
s'est malade. Le chien. D'accord, mais du coup, le chien s'impose à vous. Et grâce à ça, de toute façon, ça n'aurait pas été le chien, ça aurait été autre chose. Mais je prends l'exemple du chien, pourquoi? Parce que. Eh, non, mais d'autres n'ont pas de chien. À la place du chien, ils mettent la bête et c'est tout. C'est la télévision et puis c'est tout. Et la télévision, c'est la bête. L'Apocalypse dit bien, la télévision, c'est la bête. Hein? L'image qui parle et qui donne un message, qui semble vivre, qui donne vie dans la maison, ça revient au même. C'est pire que le chien, finalement, puisque c'est instrumental.
Hein? Moi, il m'a obligé à sortir.
Ah, bravo, Mireille. Voilà, donc, nous disons la même chose. Mais vous n'auriez pas eu le chien qui serait imposé à vous, vous auriez été obligé de vous mettre dans une dépendance aliénante par rapport à quelque chose d'autre que ce chien.
Oui, j'étais repliée sur moi.
Oui,
c'était
oui. Oui, c'était épouvantable.
J'avais même peur de sortir du bâtiment, d'aller derrière, parce qu'on m'avait raconté une histoire, mais j'avais peur de tout.
Alors, avec le chien, vous n'aviez plus peur avec le chien. Un moins peur.
Oui, c'est vrai, moins peur.
Voilà.
Bon,
le phénomène de la peur affective, c'est que le poids, le centre de gravité est dans l'endurcissement. Ça va? Mireille, écoutez, vous me posez la question, je vous réponds. Le phénomène de peur vient du fait que votre affectivité blessée est plutôt dans son centre de gravité, dans le phénomène d'endurcissement. Quand la peur disparaît, c'est l'isolement. Mais du coup, vous êtes accompagné du chien, vous êtes aidé par le chien. Il suffit de se reprendre en dessous du chien et le chien, du coup, vous permet de vous reprendre psychologiquement, de vous sauver quelque part. Mais c'est une dépendance aliénante quand même.
Il y a le chien qui est aliénant, comme vous dites, et puis il y a le chien qui est l'instrument normal.
Oui, alors attention, j'espère que vous vous rappelez que notre schéma que nous avions vu ici c'est un schéma de destruction.
Il me semble que dans l'exemple de Mireille, le chien jouait son rôle.
Ah oui, tout à fait. C'est des mécanismes naturels. Donc le créateur a prévu les choses de manière admirable.
N'oublions pas qu'on oublie la vie de Saint-Roch.
Le créateur a prévu les choses de manière admirable. Donc ces processus-là sont des processus qui sont des voies de salut. Hein, parce que c'est des mécanismes, pas automatiques, mais c'est des lois de l'affectivité psychologique. Et grâce à ça, on n'est pas détruit. Et on peut se relever si on le revit. C'était justement notre recherche justement sur l'affectivité l'année dernière. Si on revit ça dans l'adoration, dans le pardon, dans la dépendance d'une adoration qui fait que mon infantilisme psychologique s'associe à une spiritualité d'abandon, une spiritualité de fils par rapport au père, une spiritualité d'abandon et d'espérance. Alors à ce moment-là, du coup, je vais plus loin dans l'ordre de l'amour et je vais plus profondément dans le cœur de l'autre sur le plan spirituel grâce à ça. Donc je dis bien, la dépendance aliénante est un phénomène de perte d'identité, de névrose, de psychose, de tout ce que vous voulez, si il n'y a pas l'adoration et le pardon. C'est ce que nous avons vu l'année dernière. Mais sinon, c'est un processus de rédemption. C'est grâce à ça qu'on peut aller plus loin, grâce à la miséricorde, au pardon, à l'adoration, dans un amour humain. C'est un amour humain qui du coup s'épanouit beaucoup plus fort grâce à cette faute, grâce à cet échec. Et ce phénomène d'endurcissement et d'isolement sont comme des ressorts, au niveau psychologique, sont comme des ressorts qui nous permettent d'aller plus profondément dans un amour encore plus grand. Voilà, et donc c'est ce processus que nous avons vu l'année dernière. Voyez bien. Bon, ce processus que nous avons vu regarder en détail l'année dernière, vous voyez bien que au niveau psychologique, il est axé du point de vue du sentiment intérieur de l'affectivité, dans le sentiment de culpabilité, la conscience de culpabilité. Bon, tous les phénomènes que nous avons ici, peur, convoitise, prise de conscience, angoisse, agressivité, haine, amertume, tristesse, et puis infantilisme, fusion, dépendance aliénante, perte d'identité, frustration, jalousie, que nous avons regardé en détail l'année dernière, endurcissement, isolement, qui sont des phénomènes d'affectivité psychologique, l'affectivité animale qui est en nous, sont des phénomènes, sont des moyens de discernement pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de notre affectivité psychologique. Mais ils sont axés ici sur le sentiment de culpabilité au niveau de l'endurcissement et sur la conscience de culpabilité. Ah, ça c'est plus radical. Il y a quelque chose de plus radical et ce sentiment de culpabilité et cette conscience de culpabilité sont des phénomène que nous voulons regarder cette année, regarder ce passage du sentiment de culpabilité à la conscience de culpabilité, c'est de regarder le soubassement du cœur qu'on appelle la mémoire. C'est en raison de la capacité, et la mémoire, attention, vous voyez, c'est le lien qu'il y a entre notre mémoire spirituelle, si vous voulez, notre liberté perpétuelle au niveau spirituel, notre liberté perpétuelle, on dirait aujourd'hui, en lien avec notre sensibilité interne. Et ça, c'est lié. On commence à avoir une fenêtre là-dessus grâce à notre vision sur l'amour tel qu'il est vécu et senti. Vous voyez ? Et c'est pour ça que maintenant, c'est le moment, puisqu'on a vu ça l'année dernière, de regarder plus attentivement ce passage du sentiment de culpabilité à la conscience de culpabilité. Là, on commence à rentrer. C'est pas séparé de la blessure du cœur. Mais c'est dans ce processus que nous avons vu l'année dernière, mais c'est distinct quand même, on peut le distinguer. On peut voir que c'est un axe de vie intérieure différent, celui de la mémoire. On commence à rejoindre en nous, grâce au sentiment de culpabilité, que si on a un sentiment de culpabilité, ça veut dire que nous avons une vie intérieure. Et que nous avons conscience. Notre âme sait cela, même si nous n'avons pas conscience affectivement ou intellectuellement. Il y a une innocence à l'intérieur de nous. Il y a une innocence divine, il y a une richesse invraisemblable. Et le fait d'avoir été blessé quelque part, s'il y a le sentiment de culpabilité, c'est bien parce qu'il y a quelque chose au fond de nous qui en souffre, hein, qui en est gêné. Et s'il y a quelque chose qui en est gêné, c'est que nous vivons grâce à la mémoire, nous continuons à vivre grâce à la mémoire de cet amour, de cette vie, de cette lumière, de cet océan immaculé de bénédiction, de force, de vie, qui est au fond de nous et qu'on appelle l'innocence divine, que je pourrais appeler, que j'appelle l'innocence divine, au centre de nous, au centre de nous. Et là, je reviens donc à ce tableau que vous aviez aussi l'année dernière, qu'on vous distribuera la prochaine fois à nouveau. Au centre de nous, il y a cette innocence. Elle ne nous quitte pas. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui ont mis leur marque. Et la marque du Père, du Fils et du Saint-Esprit est éternelle, indéracinable. Et si je me casse au niveau physique, au niveau affectif, au niveau psychique, au niveau spirituel, Dieu reste fidèle. Et sa force d'amour pour moi me donne une puissance de sainteté qui reste intacte. Et c'est parce qu'il y a cet océan de sainteté au centre de moi, cette innocence parfaite, qui est complètement crucifiée, d'accord, quelquefois, que ce sentiment de culpabilité peut apparaître. J'aurais aucun sentiment de culpabilité. Si au fond de moi, le noyau de moi-même, ce n'était que du péché, j'en rajoute, puis c'est tout. Et ce que je rajoute, c'est moins grave, finalement. J'espère que vous voyez la différence entre la position de Luther, par exemple, et de Kant. Luther au niveau chrétien, Kant au niveau philosophique, et la position différente de la position apostolique, qui est celle-là, de catholique, et puis la position, au fond, on peut dire, je ne sais pas moi, en philosophie, du métaphysicien, si vous voulez. Le métaphysicien, il comprend ça. Marido en tant que philosophe. MDP. Voyez bien, Luther, il va dire, rentre à l'intérieur de toi. Ne reste pas à la périphérie de ce que tu vois apparemment, ce qui est physique, si tu veux, tes instincts, tout ça. Rentre à l'intérieur de toi. Ne reste pas non plus à la périphérie de ce que tu ressens intérieurement, c'est psychologique. Rentre plus profondément dans le point de vue spirituel pour trouver ta liberté, si tu veux, d'une certaine manière. Mais ta liberté jaillit en ce sens que tu vas voir qu'au centre de toi-même, dit Luther, tu n'es que péché. Ça, c'est Luther. Hein? Tu n'es que péché. Et Kant reprend ça. Si profondément tu rentres au fond de toi-même et tu découvres qu'au centre de toi-même, tu n'es que péché, comme dit l'Écriture, ça, voilà, là. L'Écriture, ça s'interprète, mais enfin, il l'interprète comme ça. Et là, comme dit l'Écriture, à ce moment-là, tu découvres ce péché, mais comme tu es dans l'intériorité spirituelle, ta liberté jaillit en Dieu, et Christ Sauveur te reprend. Mais au fond de toi-même, tu n'es rien, tu n'es que péché. Fiasque. Bourbier, pourriture. Et Dieu ne peut rien faire, il n'y a que le Christ qui peut t'envelopper d'un manteau de justification et t'emporter au ciel, dans l'éternité bienheureuse. Mais toi, tu ne peux jamais être transformé, tandis que nous disons ceci. Ça, c'est de la théologie, hein, mais il faudrait regarder, ici, on essaie de faire aussi un petit peu de la psychologie et de la vie spirituelle. Donc, mais c'est à cause de Luther qu'il y a cette vision kantienne de l'homme. Et il me semble, par exemple, que quelqu'un comme Lévinas, personne n'a jamais entendu parler de Lévinas, parce que Lévinas, on parle beaucoup de quelqu'un qui s'appelle Lévinas en ce moment. Donc, c'est les jésuites de Paris qui ont découvert Lévinas d'un seul coup. Lévinas, il essaye d'aller plus loin, il considère que Heidegger, ça va pas, c'est périmé. Heidegger, c'est quelqu'un qui dit, mais enfin, toute notre pensée contemporaine, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Les gens, ils butent, ils sont enfermés dans quelque chose de complètement platonicien. Enfin, Heidegger, il dit, mais tout le monde part à partir de son idée, de son opinion, de son... Je caricature, je vulgarise, hein, parce que Heidegger, c'est très intelligent. Hein. Tous les gens sont enfermés dans l'humanité, partent toujours des opinions, des idéologies, le positivisme, la science, ce qui sort de sa tête, quoi. Ils sont complètement incapables de regarder ce qui ne sort pas de leur tête, ce qui est la réalité, l'autre. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Il y a quelque chose qui ne sort pas de notre tête, c'est le fait qu'on existe, c'est l'être.
Heidegger, mais qu'est-ce que c'est que l'être ? Et Heidegger, il dit, mais on peut s'en sortir du bourbier dans lequel on est, si vous voulez, dans le pathos, si on essaie de regarder, mais qu'est-ce que c'est que l'être ? L'aletheia de l'être, le dévoilement de l'être. Qu'est-ce que l'être ? Et Heidegger, il cherche ce que c'est que exister, l'être, qui ne peut pas venir de nous. Et ça ne vient pas de notre pensée, en tout cas. Ça, c'est sûr. Le fait que... Ouais, il n'est pas du tout d'accord avec Descartes. Il comprend que Descartes, c'est une aberration. Donc, du coup, il cherche l'être. Alors, Lévinas dit, ça ne va pas. Heidegger, il croit qu'on peut s'en sortir dans notre vie humaine de dépassement de nous-mêmes par la métaphysique de l'être, par la recherche de ce que c'est qu'exister. Mais finalement, il échoue. Et effectivement, il a raison, Lévinas. Heidegger n'y arrive pas. Heidegger, il essaie de comprendre ce que c'est qu'exister, mais il sait que c'est là qu'il faut regarder, il sait qu'il faut comprendre ça, il faut qu'on sorte de notre opinion, nos idées, notre manière de voir, nos impressions. Ça, il est très juste de ce côté-là, Heidegger. Mais il n'arrive pas, parce que quelque part, Heidegger est resté platonicien. Parce qu'il quête, il fait la quête de l'être à partir du fait qu'il comprend que exister l'être. C'est quelque chose qui ne vient pas de ma pensée. Et pourtant, en même temps, c'est ma pensée qui exprime cette quête. Et donc, il met toujours le primat de l'idée. C'est pour ça. Alors, il est enfermé. Donc, peu importe, je laisse tomber cette remarque. Mais Lévinas lui remarque qu'Heidegger, pathos, n'y arrive pas. Elle dit, vous voyez, Heidegger n'y arrive pas. Et pour cause, c'est parce que pour sortir de nous-mêmes, il n'y a que l'amour. Il n'y a que l'amour qui me permet de rentrer, sortir de moi-même et faire que ce soit l'autre... Il n'y a que l'amour qui fait ça. Et donc, le seul moyen d'avoir la vérité sur la libération de nous-mêmes, c'est l'éthique. Et donc, si vraiment je veux rentrer dans la vérité, je ne peux rentrer dans la vérité que par l'éthique. Alors du coup, regardez, les jésuites sont super contents, parce que le pape lui-même dit, hop, splendor veritatis. La vérité, c'est dans l'éthique. Ah, donc, vous voyez, c'est Lévinas triomphant. Non, c'est un philosophe. Hein, c'est un philosophe. C'est, il a participé. Oui, oui, il est professeur de philosophie. Moi, je l'ai vu à Fribourg. Enseigner des... Non. C'est un pur laïc. Hein. Enfin, c'est un bonhomme, un professeur de philosophie. Quoi. Un maître, un docteur en philosophie. Bon, alors, est-ce que la seule vérité est d'ordre éthique ? Vous savez, ça ne va pas de dire ça, vous savez bien. L'éthique, c'est un domaine. C'est le domaine comment faire pour aimer spirituellement l'autre et qu'il soit mon bien. Et que je puisse rentrer effectivement jusqu'à ce don de moi-même, de toute ma vie, jusqu'à en mourir. Mais ça, c'est un aspect de la question et la vie contemplative. Et finalement, Lévinas est kantien. Kant, il fait la même chose que Luther. Et c'est pour ça que les jésuites des études qui sont très kantiens se précipitent sur Lévinas, je vous le signale. Parce qu'au fond, plus je rentre au fond de moi, l'être qui est devant de moi, ça ne me fera pas du tout atteindre la vérité. La seule chose qui compte, c'est qu'à partir du moment où j'ai saisi en moi cet appel à l'amour qui correspond à ma vie spirituelle, à ce moment-là, je sors de moi pour atteindre l'autre. Et donc, à nouveau, je ne pénètre pas dans mon innocence intérieure, au fond de moi-même. Il n'y a pas l'être, n'existe pas, je n'arrive pas à l'atteindre. Finalement, Lévinas est kantien. Alors, je veux dépasser Hegel, je veux dépasser Heidegger, et je suis esclave de Kant. C'est une régression formidable, Lévinas, au niveau de la pensée. Il est d'accord avec moi. Il n'est pas d'accord avec Lévinas, Saint Ignace de Loyola. Et quand je fais les exercices de Saint Ignace, précisément, j'essaie de sortir des influences de mon environnement extérieur, j'essaie de sortir de mon atavisme psychologique, de mes impressions, ce que je ressens, ce qui m'attire, etc. Moi, je me sens tellement fait pour... je voudrais tellement être l'apôtre qui passe dans toutes les maisons, qui évangélise tout le monde, qui parle de Jésus, qui convertit, je veux être apôtre, etc. Ben, c'est ça que j'aime, c'est ça que je voudrais, je suis un charismatique formidable et tout. C'est psychologique ça, puisque je le ressens. Alors, dès que tu ressens, c'est que c'est psychologique. Et on te demande de te mettre en dehors de tout ça, arriver au bout de 10 jours, 17 jours d'exercice de Saint-Ignace de Loyola. Ah, tu commences à découvrir que tu existes, que Dieu existe, etc. Et le but des exercices, c'est de se mettre ici, là, dans ton innocence initiale, dans ta prédestination. Et une fois que tu es là, tu cries comme l'enfant dans le désert et tu entends l'appel de Dieu. Et tu vois que l'appel de Dieu ne peut pas se comprendre sur le plan humain. Au niveau de l'incarnation, non. Il se comprend au niveau divin, ton appel. Et tu aperçois qu'il y a une oreille à l'intérieur de toi qui est une oreille très extraordinaire. C'est une oreille métaphysique, si tu veux. Hein? C'est un peu ça, hein, les exercices. D'accord, c'est un petit peu ça, ce processus. Saint Ignace, il sait qu'au fond de nous, il y a cet océan immaculé qui fait que là, on est en dehors de toute influence de nous-mêmes, du monde. Hein. Même les choses bonnes du monde, hein. Même les pères spirituels, votre père spirituel c'est le père Pio, il a plein de stigmates, le sang coule de tous les côtés, il vous dit quelque chose, vous faites l'exercice de Saint-Ignace, et le jésuite qui bave, etc., il dit, laissez tomber Padre Pio, votre père spirituel, laissez-le tomber. Et il a raison. Il faut rentrer dans l'Esprit-Saint, c'est à l'Esprit-Saint qu'on obéit. Et un père spirituel n'a pas le droit de se substituer à l'Esprit-Saint, il est témoin, c'est tout. Il vous confirme qu'à son avis, c'est peut-être l'Esprit-Saint qui a parlé pour vous. Mais il ne va pas se substituer à l'Esprit-Saint. Il n'a pas le droit. Si c'est ça, ce n'est pas un très mauvais père spirituel. Il confirme, c'est tout. Tu vois. Il s'étonne, il admire. Et il prie pour vous. C'est quatre fonctions du père spirituel. Mais ce n'est pas lui qui dit « Hey, ouvrez ça !» Vous ferez les jaquettes comme ça, comme ça et comme ça. Non, ça c'est super spirituel, ça n'intéresse pas ça. Bon, il dit son avis, il dit moi j'aime bien comme ça, mais faites comme vous voulez après. Bon, alors donc, comme l'Esprit Saint veut. Voilà, donc au fond de nous, il y a cet océan immaculé, cette richesse, je dis bien quasi-infinie, et pas infinie, c'est pas une richesse infinie, c'est une richesse quasi-infinie. De force, de vie, de lumière, d'existence. Elle est au fond de nous, elle est là, au centre de notre corps, de notre chair, de notre âme, de notre cœur, de notre esprit. Au centre de nous-mêmes, il faut arriver à le retrouver. Les deux seuls moyens pour le retrouver, mais le plus grand moyen pour le retrouver, c'est d'essayer de comprendre, parce que nous, il faut qu'on arrive à ces choses invisibles par le sensible. Et justement, un des moyens, c'est de descendre dans nos blessures affectives, rejoindre en nous le sentiment de culpabilité, le faire mûrir en conscience de culpabilité et voir la racine de notre innocence qui est gardée précieusement par notre mémoire ontologique. Notre mémoire ontologique, c'est ce berceau qui garde cette pureté, cette sainteté, cette puissance de sainteté qui est restée tout à fait vierge en nous. Dieu est en nous. Et nous sommes un saint, nous sommes une sainte. Et l'enfance de sainteté. Alors du coup, on s'abandonne, on dit, ah enfin, on peut s'abandonner, on peut avoir confiance, on peut à nouveau savoir qu'on est dans l'espérance, qu'on ne cesse de croître dans la sainteté, en s'abandonnant à Dieu, intérieurement, qui est au centre de nous. Vous voyez bien que ce n'est pas de la contemplation et que ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est pas de la contemplation, c'est pas de l'amour, c'est pas la volonté, c'est pas le choix, c'est pas la contemplation de la vérité, c'est pas une assimilation. Quand vous contemplez Dieu, pénètre en vous, et vous vous l'assimilez. Tandis que là, il est au fond de vous, vous vous abandonnez. Donc c'est pas la volonté, c'est pas l'intelligence contemplative, c'est la mémoire. Non, vous ne ressentez rien, vous êtes. Vous êtes ce que vous êtes. Et Dieu vous a fait à partir de lui-même, et vous êtes, Dieu est en vous, et vous êtes Dieu avec Dieu, enfin vous êtes fils de Dieu avec Dieu, vous êtes une participation à la vie divine, vous êtes dans, évidemment, je reconnais qu'il y a un problème particulier que nous verrons justement cette année, le problème tout particulier de ceux qui sont en état de grâce, et ceux qui ne sont pas en état de grâce. Vous voyez ? Ah bien sûr, hein, parce que si vous êtes en état de grâce, alors à ce moment-là, c'est Dieu, la très sainte Trinité, le ciel tout entier, la Jérusalem céleste tout entière qui est là. Et vous vous abandonnez, vous baladez, dès que vous vous arrêtez dans la Jérusalem céleste, tout est là. Quoi que j'ai fait, quoi que je sois, hein, quoi que je... C'est le ciel tout entier, je suis déjà dans l'immense béatitude. Et du coup, le fait que je m'abandonne là, ici, en ne faisant rien de manière passive, en jouissant, cette béatitude profonde qui est en moi, elle fait qu'elle augmente toute seule. Dès que je m'arrête, c'est pas de la contemplation, c'est pas de l'amour, c'est de l'abandon. Je deviens tout petit, je deviens ce que je suis. Ce que je suis dès l'origine, et que Dieu ne demande qu'à faire croître si je m'abandonne dans ses bras de Père. C'est pour ça que c'est, au fond, le côté du Père. C'est le côté du Père qui commande toute la vie spirituelle, psychologique et extérieure et sensible en nous de la mémoire. Et pour découvrir Dieu comme Père, il faut être très abandonné intérieurement à sa présence totale en nous. C'est pour ça que le Père n'est jamais envoyé comme personne divine. Il y a deux personnes dans la très sainte Trinité qui sont envoyées dans notre âme. Le Père envoie son Fils, et le Père et le Fils envoient en nous l'Esprit Saint. Il y a deux missions invisibles d'après la foi catholique, mais vous ne verrez jamais dans l'Écriture, ni dans la théologie, ni dans les doctrines spirituelles, que Dieu envoie le Père. Jamais. Alors vous dites à Dieu, « Seigneur, envoie-moi le Père. » Jamais. Jamais, vous ne verrez jamais une prière, mais vous dites, Seigneur, envoie-moi ton Fils. Seigneur, donne-moi l'Esprit Saint. Mais le Père, il est donné, il est là. Donc vous voyez, en fonction justement du visage de Dieu et de notre visage, il y a trois grandes relations avec le Dieu unique. Et en même temps, il y avait effectivement, éternellement, trois visages du Dieu unique, il y a trois personnes. Et c'est cet apprentissage précisément, c'est cette prise de conscience, si je puis dire, c'est le cas de le dire, c'est par la prise de conscience de ce lien expérimental que je fais à travers l'état de grâce, bien sûr, avec le Père, que je vais pouvoir voir très clairement ce que c'est que la mémoire ontologique, mais également, si je ne suis pas en état de grâce, mais ça je crois qu'il faudra l'approfondir ultérieurement quand on aura avancé, quand je ne suis pas en état de grâce, je reste, mon innocence divine demeure. Alors bien sûr, elle s'arrête dans sa croissance, ça c'est vrai. Mais elle demeure. La sainteté totale qui est la vôtre demeure. Mais elle n'augmente plus. C'est le fait de l'espérance qui fait que notre sainteté augmente. L'espérance fait que notre sainteté se conjoint à la plénitude de sainteté. Sorti du doigt de Dieu, depuis le début jusqu'à la fin du monde. Et du coup, notre sainteté augmente. Elle ne cesse d'augmenter. Mais cette sainteté est là. Et elle est quasi infinie dès le départ. C'est comme Marie. Marie est à l'origine Immaculée Conception. C'est-à-dire, c'est pas mal, hein, une sainteté en compréhension, en intensité, si vous préférez, et en extension, et en quantité, et en visibilité, si vous voulez, qui est plus grande, qui est plus considérable, qui est plus substantielle que toutes les saintetés de tous les saints associés, additionnés, multipliés, tout ce que vous voulez. Au départ, elle a cette sainteté-là. Mais, elle a fait en sorte que cette innocence qui est la sienne, immaculée, n'a jamais cessé d'augmenter. Alors, c'est quand même considérable, ça. Alors, la différence avec nous, peut-être, c'est qu'on pourrait faire en sorte que cette innocence qui est la nôtre ne s'arrête pas d'augmenter, n'arrête pas de s'augmenter, notamment si nous rentrons dans l'union à Dieu, et si nous restons toujours dans l'union à Dieu, ce qui est facile. Sainte Thérèse d'Avila, que nous avons fêté il y a 3 jours, donc, dit explicitement, « Donnez-moi une âme qui fait son oraison tous les jours, et dans un an, je la conduis à la 6e demeure, c'est-à-dire aux fiançailles. En un an, j'en fais une sainte, c'est-à-dire quelqu'un qui est dans la 6e demeure, c'est-à-dire dont l'union à Dieu est perpétuelle, nuit et jour, et donc la grâce ne cesse d'augmenter sans arrêt. Voilà. » C'est ça un saint. Un saint, c'est quelqu'un dont l'innocence divine, la sainteté, ne cesse d'augmenter sans arrêt. Un saint, ce n'est pas quelqu'un qui est en état de grâce, c'est quelqu'un qui fait que la sainteté qui est la sienne augmente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Sainte Thérèse d'Avila, donnez-moi quelqu'un, donnez-moi une novice qui fait son heure d'oraison par tous les jours, bien sûr, il faut lui apprendre à faire oraison. Il ne faut pas qu'elle passe une heure à faire du zazen. Une heure à faire du zazen, c'est au contraire le blocage de la grâce. Ça n'enlève pas la grâce, mais la grâce n'augmente pas, n'augmente plus, puisqu'il faut faire le vide. Donc vous voyez, donc, c'est du côté du Père, la mémoire ontologique. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser, justement, parce qu'il me reste... Oh, c'est pas vrai. Il me reste combien de temps? 20 minutes, même pas? Bon alors, rapidement, comme ça, on, la prochaine fois, on prendra ce tableau-là pour regarder le processus du sentiment de culpabilité dans ce lien entre la mémoire spirituelle et la mémoire psychologique et le processus de la conscience de culpabilité. Vous l'avez... bon, mais tout de suite déjà, on va regarder ce petit tableau rapidement, je vous le lis, pour vous montrer que c'est quand même dans l'Écriture. Tout ça est enraciné dans l'Écriture. Voilà, là vous voyez bien, il faudrait que pour ça qu'on relise le livre de la Genèse et qu'on voit justement le péché originel, l'homme et la femme, dans le livre de la Genèse, sont créés à l'image de Dieu, dans une innocence originelle. Vous voyez, cette innocence originelle, ce n'est pas quelque chose que je vous invente. C'est quelque chose qui est dans le livre de la Genèse. Dieu crée l'homme et la femme dans un état d'innocence. Et chacun d'entre nous, nous sommes créés par Dieu, dès la conception, dans un état d'innocence. Et l'homme et la femme ont en eux, et donc chacun d'entre nous, nous avons en nous cette grâce originelle, si je puis dire. Donc, nous sommes non seulement dans un état d'innocence, en ce sens que nous sommes à l'image de Dieu, c'est ça, être à l'image de Dieu, c'est que nous sommes un être humain qui est d'une innocence, d'une limpidité, d'une transparence, d'un dynamisme, d'une capacité de sainteté, d'une puissance à l'amour, à la recherche de la vérité, à la vie contemplative et au don, et à la liberté totale. Il n'y a aucun obstacle pour se donner dès le départ. Ça, c'est humain, ça. Mais en même temps, il y a la grâce originelle. Et la grâce, c'est de la vie divine. Adam et Ève sont créés dans la grâce originelle. Vous voyez bien ? Et cette grâce originelle, c'est cette présence de Dieu qui fait que nous pouvons passer de l'image à la ressemblance de Dieu. Nous sommes dans cette tension, donc, entre l'image et la ressemblance. Parce que nous sommes dans un état d'innocence. Nous sommes à l'image de Dieu. Et en même temps, il y a la grâce qui fait qu'effectivement, le Père, le Fils, le Saint-Esprit sont là par participation, en partie, si vous voulez. Ils sont là. C'est-à-dire qu'il y a les trois visages qui sont là. Dans la création, vous savez bien, Dieu est présent, est omniprésent. Vous regardez la nature, Dieu est présent. Dieu est présent partout dans la création. Où est-ce qu'il est ? Ben, il est partout. Comme l'air qu'on respire. Il est présent partout. Il est omniprésent. Il est partout présent. Mais c'est le Dieu créateur. C'est le Dieu unique. Vous voyez bien. Tandis qu'au fond de notre âme, la présence de Dieu est d'une nature différente. Ah, c'est la même présence, mais elle est plus riche, si vous voulez. Dieu commence à dévoiler ses trois visages. Vous voyez bien. C'est ça, c'est la grâce originelle dans
notre être profond à l'image de Dieu, cette innocence divine. Nous sommes le petit... nous sommes le petit de l'homme irrigué par la vie divine, par la lumière surnaturelle de Dieu, qui fait que nous pouvons tout entier ressembler au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Nous sommes dans cette tension. Ça, c'est une... Et d'un seul coup, il dit attention, attention, pour ça, il faut rester dans l'amour. Il faut rester dans l'amour du prochain. Je donne à Adam la femme. Je donne à... Et il faut vivre de l'unité de Dieu et du prochain. C'est ce que dit Saint Jean. Il donne un premier commandement. Et le commandement des origines, première épître de Saint Jean, c'est l'amour de Dieu et du prochain. Le commandement des origines, c'est d'aimer. Donc, relisons souvent l'épître de Saint Jean, pour nous rappeler quel est le commandement de l'origine, le commandement originel. Et Ève, un des deux, va parler avec le serpent et va prendre la pomme. Donc son péché, ce n'est pas d'avoir pris la pomme, c'est de s'être séparé d'Adam. Elle a discuté avec le serpent, et ça c'était la ruse, il a fait croire qu'il mangeait la pomme, alors que le péché, c'était d'être séparé de l'autre. Elle aurait dû aller discuter, si elle avait eu un doute, elle aurait dû discuter avec Adam en disant, tu sais, voilà ce qu'on propose, on propose de manger une pomme. Mais elle lui a proposé après d'avoir mangé, je crois, il me semble, après d'avoir acquiescé. Elle aurait dû en parler avec Adam. Et aussitôt Adam lui dit, mais... Et Satan serait parti, il ne supporte pas l'unité d'amour. Alors c'est pour ça. Le commandement des origines, c'est cette unité profonde avec Dieu, avec l'amour de Dieu et avec celui que Dieu nous propose comme demeure. Nous devons être dans une demeure. La demeure, c'est celui que Dieu met proche de nous. Nous devons demeurer dans celui qui est proche de nous et dans l'amour de Dieu. Voilà le commandement des origines qui structure notre innocence originelle. Mais vient quand même le péché originel. Alors, dit l'Écriture, on va prendre le passage, livre de la Genèse, chapitre 4, je crois. Et on va voir comment cette innocence originelle, notre innocence divine, va être blessée. Va être blessée. Pas tuée, mais blessée. Seulement blessée. Chapitre 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors, Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sous peine de mort. Le serpent répliqua à la femme, pas du tout, mais vous ne mourrez pas. Ouais, c'est la discussion extraordinaire, parce que je n'ai pas le temps de vous commenter, c'est dommage, parce qu'un jour on le fera. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des yeux qui connaissent le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir l'entendement. Dès que je me sépare de mon innocence divine, je rentre dans les trois concupiscences. Dès que je me sépare au fond de moi de cet appel à l'intériorité la plus profonde dans laquelle je me retrouve moi-même, tel que je suis, et pas tel que les gens me voient, tel que Dieu me voit, et non pas tel que je me vois, alors à ce moment-là, je rentre automatiquement dans les trois concupiscences, je sors de l'humilité du tout petit, et dans la concupiscence de l'orgueil. Et je suis du coup attiré vers ce qui est sensible, je rentre dans la concupiscence charnelle et je commence à devenir curieux et à m'occuper de choses secondaires et accidentelles et je rentre dans la concupiscence des yeux. Et les trois sont là, vous le voyez bien. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à voir, et qu'il était désirable pour acquérir l'entendement. Vous voyez ? Désirable pour acquérir l'entendement, concupiscence de l'esprit. Hein ? C'est bon à voir, concupiscence de la sensibilité charnelle, et séduisant, bon à manger, concupiscence charnelle, et puis séduisant à voir, concupiscence des yeux. C'est pour ça que Saint Jean, dans l'Épître, rappelle premièrement le commandement de Dieu qui nous établit dans l'innocence d'un amour pur, perpétuellement grandissant, et en même temps, les trois conséquences du péché originel, les trois séquelles. C'est dans l'Épître de Saint Jean. Il n'y a que l'Épître de Saint Jean qui met ça. Il n'y a que Saint Jean qui nous met le doigt là-dessus. Vous ne verrez pas, vous verrez pas ça dans Saint Matthieu ou dans Saint Paul. Elle prit de son fruit et en mangea. Hein, elle commence, vous voyez. Ça, c'est ça. Là, voilà le péché, ça. Elle a quitté l'amour. Très bien qu'elle parle avec le serpent, c'est parfait. Mais elle n'aurait pas dû discuter avec lui. Elle aurait dû voir tout de suite qu'on ne discute pas. On discute à partir de l'amour, mais on ne discute pas isolé de l'amour avec le serpent. Si tu discutes inséparé de l'amour de Dieu et du prochain, le démon ne discute pas avec toi. Donc si tu discutes avec le démon, c'est que tu t'es séparé de l'amour de Dieu et du prochain. Ça, c'est très très bon pour la spiritualité de la tentation. Hein? Si vous êtes dans la tentation, c'est que vous êtes séparé de l'amour de Dieu et du prochain. Alors portez votre attention à ce moment-là sur la présence de Dieu. Et aimez le monde entier et tous ceux qui sont proches de vous, vous verrez la tentation tout le temps. Autant que vous pouvez, n'est-ce pas? Alors, c'est une question d'attention, la tentation. Si face à la tentation, je dis, ah, il faut que je lutte contre cette tentation, vous êtes attentif à quoi? À la tentation. Et du coup, cette tentation, cette lutte, va vous épuiser. Au niveau spirituel, la tentation, c'est ça. Alors, dès qu'il y a une tentation, méprisez et soyez attentif à Dieu. Soyez attentif à Dieu, priez. Et puis, demandez à Dieu de bénir ce que vous n'aimez pas, etc. Soyez attentif à cette action de Dieu sur ceux que vous n'arrivez pas à aimer, ceux que vous haïssez et ceux que vous n'arrivez pas à pardonner. Demandez à Dieu. Vous verrez que alors là, le démon, hein, va dire oui à toutes gens. Et soyez attentif à pardonner à ceux à qui vous n'avez jamais pardonné parce que vous ne voulez pas leur pardonner. Alors ça, je peux vous dire, la tentation, hein, du démon, elle ne fait pas long feu, hein, si vous faites ça. Et si vous n'y arrivez pas, vous dites avec vos lèvres, tout simplement, seulement vos lèvres. Je pardonne, Seigneur, pardonne, Seigneur. C'est lui plein de bénédictions que tout. Parce que souvent, quand vous en voulez à quelqu'un, vous lui dites qu'il soit cassé, qu'il échoue, qu'il se casse la gueule, que tout se casse, que tout aille mal pour lui, qu'il aille jusqu'au bout de sa merde, etc. Quoi, c'est pas ça? Que chacun d'entre nous repère celui pour lequel, on a tous un, on serait la personne pour laquelle on est. On a tous un. Et quelquefois, c'est nous-mêmes. Qui crève, espèce d'idiot. Alors, vous regardez dans la glace quelquefois, espèce de. Mais c'est vraiment le dernier des cons. C'est de la boue ambulante, c'est ça. Alors, si c'est vous, priez pour vous. Disant, Seigneur, c'est merveilleux. J'ai un visage d'une splendeur, d'une innocence aussi extraordinairement réconfortante que le visage d'un petit enfant. Vous savez, ces petits visages des petits enfants indiens, quand ils ont 5-6 ans, qui vous regardent avec des grands yeux, quel sourire. Ça vous réconforte, c'est extraordinaire. Dieu est réconforté par moi, dans mon innocence intérieure. Et je découvre cet amour incroyable de Dieu, qui est perpétuel et qui structure tout ce que je suis intérieurement et qui fait toute ma vie intérieure, ma beauté.
de ma grandeur devant Dieu, c'est que je le console à cause de ma petitesse. Est-ce que lui, il ne peut pas recevoir d'autres richesses de notre part que notre petitesse? Lui, il est grand. Il a besoin de cette petitesse dans l'ordre de l'amour pour jubiler de gloire hein, davantage. Ah, il nous aime éperdument, avec un amour aussi intense que celui avec lequel il s'aime lui-même dans l'Esprit Saint. Dans la mesure où on est petit, on découvre qu'on est beau et on remercie le Seigneur. Et du coup, nous nous aimons nous-mêmes puisque Dieu nous aime aussi intensément. Et on découvre pareil pour, à travers celui que vraiment on déteste. Apprendre cela, voyez. Alors, elle en donna aussi, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea. Et oui, la femme est médiatrice, vous comprenez alors. Alors leurs yeux à tous deux souffrirent. Voyez donc, ils prirent du fruit de l'arbre et ils en mangèrent. Avec la désobéissance, donc la rupture de cet impératif de l'amour de Dieu et du prochain au fond de nous, aussitôt apparaît les convoitises, les trois concupiscences du péché, et du coup, effectivement, cette convoitise nous met, on est attentif à la convoitise, au lieu d'être attentif à cette innocence divine qui est en nous, à cet amour si étonnant avec lequel nous sommes fabriqués, et du coup, le péché arrive. Et du coup, aussitôt, le verset d'après, suivant, alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, leurs yeux se dessillèrent. Tout de suite, ils découvrent que leur innocence est blessée. Et que leur souffrance la plus grande, c'est ça, c'est que leur innocence, d'arrêter de croître dans la sainteté. Et c'est ce qui fait le plus souffrir, c'est quand notre amour ne grandit plus. Il y a des gens qui disent « Il ne m'aime plus comme il m'a aimé. » Imbécile. Heureusement. Ah, mon père, je vais divorcer parce que il ne m'aime plus comme il m'a aimé. Ben, j'espère bien. L'amour, hein, ça cesse de croître. Et notre plus grande souffrance, c'est pas qu'il nous aime plus comme il nous a aimé. Chose, non. Nous, on a. Moi, j'ai envie de voir de nouveaux horizons, des espaces. L'amour fait ça. Il grandit, du coup, c'est toujours nouveau, toujours plus grand, toujours plus intense, toujours plus étonnant. C'est toujours différent. Et du coup, il va m'aimer à travers un visage quelquefois rebutant. Et ça permet à l'amour d'aller encore plus loin. Voyez. Alors, leurs yeux se dessillèrent. Voyez sur le petit tableau, la convoitise qui engendre le péché engendre en moi la souffrance. Leurs yeux se dessillèrent. Et cette souffrance, c'est que mon amour ne grandit plus. Mon amour humain ne grandit plus avec l'amour divin qui est au fond de moi. Mon amour humain va continuer à grandir peut-être, mais séparé de l'amour divin qui est au fond de moi. Et c'est ça ma souffrance. Ma souffrance profonde. Dès que vous souffrez, sachez que c'est ça. Alors, ils connurent qu'ils étaient nés. Verset suivant. Ils connurent qu'ils étaient nés. C'est très beau hein, de voir comment. Alors, si cette souffrance qui est au fond de nous, que nous portons, notre mémoire spirituelle ne cesse de faire écho à cette souffrance qui est notre première, notre perpétuelle souffrance, notre croix substantielle, c'est ça en nous. Cette croix bienheureuse fabriquée avec de l'amour. C'est une souffrance d'amour. Ce n'est pas du tout une souffrance à rejeter. C'est une souffrance à reconnaître, à étreindre, avec une reconnaissance éperdue. Alors à ce moment-là, cette souffrance, en tout cas, tout de suite, si on ne revient pas à l'amour de Dieu et du prochain, elle fait naître. Honte, leurs yeux se dessillèrent.
Et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils connurent qu'ils étaient nus. Avant, ils voyaient qu'ils étaient nus, ils n'avaient pas honte. Oui, dans le contexte de la souffrance. Hein? Dans le contexte d'une souffrance, la nudité. Dans le contexte de l'amour de Dieu et du prochain, vous rejoignez celui que Dieu a mis proche de vous dans le nid de la présence sacramentelle du mariage. Il n'y a pas de honte. Aucune honte, personne ne ressent la honte là-dedans. Si vous êtes dans l'adoration et en présence de Dieu, la honte a totalement disparu. Si c'est dans un phénomène d'adultère, si c'est en dehors du mariage, etc., la honte existe là, vous savez, elle se mue en artificialité, il y a toutes sortes de choses, en lutte de puissance à ce moment-là. C'est pour ça qu'à ce moment-là, ça c'est vraiment le sacrilège parfait. Il y a un abîme entre l'amour sponsal et puis l'amour entre l'homme et la femme en dehors de la bénédiction de Dieu. C'est les deux extrêmes. Hein. On ne peut pas faire pire comme péché et joie. Contre Dieu et contre l'homme et contre nous-mêmes. Et c'est pour ça qu'il faut être attentif à ça. La présence de Dieu change tout. Alors, leurs yeux se dessilèrent et connurent qu'ils étaient nus. Continuons vite. Et ils cousirent des feuilles, ils se mirent à coudre des feuilles de figuier et se firent des palmes. La première fois qu'on fait un slip, vous voyez. Alors, dans l'histoire de l'homme, avec des feuilles de figuier, ils se firent des palmes. Alors, pour fuir la honte, qu'est-ce qu'on fait? On fuit en latéral. Et c'est tout le phénomène psychologique. Tous les phénomènes psychologiques qu'on va essayer de déterminer, ce qu'on appelle les phénomènes de dérive, qu'on va appeler les phénomènes de dérive pathologiques. Pour fuir cette honte, on se précipite dans les dérives pathologiques. Vous voyez ? Alors ces dérives pathologiques vont être de diverses sortes. Hein? L'obsession, la fixation, l'identification, enfin, etc. Enfin, le scrupule, enfin, on va voir tout ça. Tous ces phénomènes de dérive pathologiques à partir de cette honte, parce qu'on ne veut plus regarder qu'on a quitté l'amour. Verset suivant, vous voyez comme c'est d'une précision, hein, la Genèse, c'est mot pour mot. Hein. Verset suivant, ils entendirent le pas de Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour, et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Ah, Dieu, on se retrouve en présence de Dieu, alors là ça se commence. Du côté psychologique, c'est les dérives pathologiques. Du côté spirituel, la mise en présence de Dieu fait naître en nous, d'une certaine manière, au fond de nous, l'angoisse, et à l'intérieur de notre vie spirituelle et de notre vie relationnelle, des agressivités, des phénomènes de défense. Ils se cachèrent parmi les arbres du jardin. C'est les phénomènes de défense. On se cache derrière les arbres. On dit, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne, c'est pas moi, j'ai pas fait ça. Et phénomène de défense. Et on se cache derrière les arbres, on prend des petits prétextes en disant, mais c'est l'arbre, c'est pas moi. Hein, je vais se cacher derrière l'arbre. L'agressivité, alors c'est le phénomène d'accusation, de justification, d'auto-justification. C'est tous les arbres du jardin, ça. Il y a toujours plein de prétextes, toujours plein d'auto-justification. Alors le Seigneur Dieu appela l'homme et il dit, où es-tu? J'ai entendu ton pas dans le jardin, répondit l'homme, et j'ai eu peur parce que je suis nu et que je me suis caché. Vous voyez, il a eu peur. Et il l'a dit. Donc, vous voyez bien que sentiment de culpabilité n'est pas pareil que la conscience de culpabilité. Vous voyez, regardez le côté de la rupture de l'amour, de notre vocation. L'arrêt de notre innocence divine dans sa soif d'authentification et d'épanouissement par la faute profonde contre l'amour fait naître en nous la honte. Ça, c'est le sentiment de culpabilité. Mais on ne s'en rend pas compte. Pourquoi? Parce qu'on a plein de dérives pathologiques pour ne pas y penser. Hein, et puis plein de prétextes d'auto-justification, d'agressivité, phénomène de défense. Mais quand même, à force de développer ces phénomènes de défense, notamment lorsqu'on essaie de prier Dieu. Dieu remet à jour tout ça, et du coup, la honte se mue en conscience de culpabilité, et on s'aperçoit finalement que devant Dieu, ben, on a peur, hein, parce que, hein, regardez, nous on dit, il y a quelqu'un qui vous dit,
C'est d'ici un an que Jésus va revenir dans la parousie. Vivement qu'il revienne. Moi, je prie pour qu'il revienne maintenant. Et puis, si vous faites comme ça, vraiment, toute objectivité étendue, vous vous rendez compte que vous avez peur que Jésus revienne. Vous ne voudriez pas que ce soit jugement maintenant. Vous ne voudriez pas. Conscience de culpabilité. C'est devant Dieu que le sentiment de culpabilité se mue en conscience de culpabilité. J'ai peur parce que je suis nu. Mais dans un premier temps, il dit j'ai peur parce que je suis nu. Mais il n'a pas peur parce qu'il est nu. Ça veut rien dire. J'ai conscience de culpabilité à cause de mon sentiment de culpabilité. J'ai pas conscience de ma culpabilité. J'ai pas la conscience de culpabilité à cause du sentiment de culpabilité. J'ai cette conscience de culpabilité. J'ai peur. À cause du fait que je suis sorti de cet impératif d'amour de Dieu du prochain. Et je ne suis pas fidèle à ma sainteté, à ce que je suis fait pour être. Je ne suis pas abandonné à l'amour éternel de Dieu. Voyez bien, il reprit qui t'a appris que tu étais nu. Mais on va s'arrêter là. Mais voyez bien que Adam donc se décharge sur Ève, Ève se décharge sur Satan. Donc justification, protestation, arbre du jardin, au phénomène de défense. Et deux possibilités dans la conscience de culpabilité, faire revenir à une mémoire innocente, pure, transparente, pour comprendre que finalement, si j'ai peur, c'est parce que je ne suis plus moi-même dans mon innocence divine. Mais si je regarde à nouveau cette innocence divine qui est en moi crucifiée, je désire la plonger dans l'innocence triomphante du Christ pour recevoir le pardon. C'est la première manière de réagir à partir de ma vie spirituelle dans l'abandon à la miséricorde de Dieu. Deuxième manière, c'est dire, oui, si j'ai peur, c'est parce que je suis nul, et c'est parce que je suis moche, c'est parce que je suis honteux, c'est parce que j'ai cette faute en moi, parce que je suis fabriqué avec du péché. Vous voyez, réaction protestante, réaction apostolique. C'est deux réactions spirituelles. Et il faut dire non, c'est contre toi et toi seul que j'ai péché. À ce moment-là, on s'abandonne et on retrouve le nid nuptial du Père, les bras du Père, pour recevoir le pardon. Et précisément, à ce moment-là, on est à nouveau capable de s'abandonner. Des gens qui ne sont pas capables de faire oraison et s'abandonner dans l'oraison. Petit critère. Ah, moi, prier, j'arrive pas. Il faut que tout le temps que je sois à droite, à gauche, devant, derrière. Je suis actif. Contemplatif, d'accord, je comprends qu'on ne soit pas contemplatif. Contemplatif, il faut être philosophe, théologien, carmel, etc. Je ne suis pas une carmélite, d'accord. Mais pas être capable de faire oraison, de s'abandonner une heure de suite dans le silence d'amour, de l'innocence, que mettre mon innocence intérieure dans l'innocence triomphante du Christ. Dans les plaies, dans la demeure maternelle, divine, immaculée, des plaies mystiques, c'est caché dans cette espèce de fureur d'amour qui est éternelle, dans l'Assomption, dans la Reine, l'Immaculée de l'Univers. Restez là, s'abandonner, plonger dans cet océan crémeux, merveilleux, savoureux. Abandonner comme un enfant, pour ne vivre que de la miséricorde, être incapable de faire ça, c'est la preuve que nous sommes encore restés au niveau psychologique. Dans notre vie spirituelle. Alors attention, si vous n'arrivez pas à faire oraison une heure par jour, si vous sentez que ça est impossible pour vous, c'est un petit signe. Ça veut dire qu'il faut peut-être un petit peu mûrir et avoir une vie humaine déjà. Voilà. Et ça, c'est vous avez ici cette petite dialectique à partir de la tension entre sentiment de culpabilité et conscience de culpabilité. Il ne faut pas rester dans cette tension. Il faut sortir de cette tension en voyant l'origine, et l'origine c'est votre innocence. Et c'est en même temps cet amour de Dieu qui est en vous et qui ne demande qu'à triompher grâce à vos blessures pour aller plus loin dans l'abandon, dans la miséricorde, dans la conquête de l'amour, à partir justement des portes qui se sont ouvertes grâce à ces blessures. Voilà. Bon, on verra donc la prochaine fois, plus attentivement, les processus du sentiment de culpabilité, de la conscience de culpabilité.